Amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez grâce à nos 52 radios partenaires et les 7 télévisions partenaires, bonsoir. Nous ne nous fatiguerons jamais de vous dire merci pour votre fidélité au studio Kalangou. Dans le forum de ce soir, nous allons parler de l'essor des fintechs au Niger. Avec l'essor de la technologie et la croissance rapide des terminaux digitaux, le Niger digitalise son secteur financier. Une action collective menée par l'État, la société civile et des jeunes entrepreneurs. Finance et technologie se côtoient désormais pour le bien des populations, même celles les plus reculées. On parle alors du secteur de la fintech. Selon la Conférence économique africaine, les solutions mobiles stimulent l'inclusion financière en Afrique, faisant passer le taux de pénétration bancaire sur le continent de moins de 20% en 2015 et à plus de 40% en 2021. Le domaine de la fintech au sens large regroupe l'ensemble des sociétés mettant en œuvre des solutions innovantes visant à améliorer ou repenser le secteur financier. La fintech au Niger, comment la technologie accélère l'inclusion financière? C'est la question autour de laquelle nous allons échanger dans le forum de ce soir. Et quoi de plus normal d'aller chercher les acteurs qu'il faut pour discuter? Et pour cela, nous avions sur ce plateau Madame Aminata Ba, elle est autrice du livre « L'histoire de la microfinance au Niger », une actrice qui a vu le secteur financier se transformer. Nous avons également Sherifatou Agomo, elle travaille à Care International, elle est membre aussi de l'association des fintechs du Niger, Niger Fintech. Comment est-ce que la technologie à travers la digitalisation permet aux populations les plus défavorisées d'avoir accès au cash? C'est de cela qu'on va parler. Et enfin, M. Boubacar Sidikou, responsable de l'entreprise eFuture, une des startups nigériennes qui fait des merveilles depuis quelques années. Et moi, à la présentation, je suis Olivier Assogbavi. Nous commençons ce forum avec vous, Madame Aminata Ba. Déjà, droit d'aînesse obligé. Alors, pour permettre à nos auditeurs et auditrices de bien comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui, pourriez-vous nous dire comment la technologie est arrivée à rentrer dans le secteur financier au Niger?
Merci Olivier.
Merci Madame.
Vous avez là une grande question, surtout pour nous autres qui avons vu les institutions de microfinance naître, évoluer de façon, pas artisanale non, mais de façon classique. Et maintenant, nous sommes face à une transformation. Parce que nous sommes passés de la microfinance classique maintenant à la finance inclusive qui permet de prendre en charge les populations qui, depuis un certain temps, étaient marginalisées. Bien qu'on dise quelque part que la microfinance est la banque des pauvres, il y a encore des zones au Niger ici qui ne sont pas couvertes par les institutions. Et fort heureusement, la technologie vient accompagner tout ce dispositif. Et grâce à cette technologie, maintenant, dans le cadre de la stratégie de finance inclusive, il est prévu d'accompagner les institutions de microfinance à embrasser la digitalisation, ne serait-ce que d'abord par l'ouverture des comptes au niveau de ces institutions, mais aussi en utilisant toute la technologie qu'il y a pour pouvoir aider l'accès à ces ressources, aux transactions et retraits dépôts de façon assez simple, même en restant chez soi. Et je me réjouis de voir que le Niger est en train aussi de se mettre dans cette mouvance, parce que depuis 2010, lors d'un de mes voyages d'études au Kenya, le système M-Pesa avait déjà commencé. Et on nous a montré des images d'une femme qui était localisée quelque part comme Adifa et à partir de Nairobi, arrivait à déposer de l'argent sur son compte d'épargne et à le retirer via la technologie. Et cela nous avait impressionnés à l'époque et fort heureusement maintenant, le Niger est en train de rentrer dans le « move » entre guillemets.
Yeah.
Et ça nous réjouit.
Ça me réjouit aussi. Ouais. Alors, bien que la microfinance soit la banque des pauvres, il y a toujours des difficultés d'accès. C'est Madame Aminata Ba qui le dit. Vous qui travaillez à Care International, qui est aux côtés des populations les plus défavorisées, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez aujourd'hui la technologie pour rendre accessible l'argent le finance aux populations.
Pour moi, avant de dire pourquoi la digitalisation elle est importante pour pouvoir inclure justement les populations vulnérables, il faut peut-être un peu reparler des obstacles que rencontrent ces populations vulnérables afin de pouvoir être inclus
justement, parce que pour nos auditeurs et auditrices et téléspectateurs, la digitalisation n'est qu'une solution à des problèmes.
Oui.
Et il est bien de parler de ces problèmes.
Alors. Absolument. Parce que l'un des plus grands problèmes qu'il y a actuellement, c'est l'éloignement, on va dire, des populations par rapport aux institutions financières. Parce qu'effectivement, quand vous voyez la densité de la population ici au Niger, c'est assez faible. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir, par exemple, la représentation d'une institution financière partout dans les localités et éloignées. Ce qui là veut dire qu'il faut forcément, quelque part, dématérialiser ces services financiers-là. Et quand on parle, bien sûr, de dématérialisation, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le numérique, c'est le digital. En plus de cela, nous avons un autre aspect qui est vraiment l'inadéquation des services financiers tels qu'ils sont proposés aux populations rurales.
Voilà, qui surtout nous, les conditions voilà,
d'ouverture de compte, et le qui est ici, ou bien BCC, bien connaître son client, toutes ces exigences derrière qui sont là, avoir des papiers d'identité formels, etc. Donc c'est à travers tout cela qu'on voudrait vraiment développer des outils innovants à travers la digitalisation, tels que le IKEA, des informations, une identité numérique qui sera développée et à travers l'outil digital pour pouvoir pallier à de tels problèmes. Dématérialiser aussi ces accès-là et pouvoir ouvrir un compte, par exemple, sur le téléphone, pouvoir accéder, faire des transactions à partir de son compte sur le téléphone. Donc, tant de choses vraiment auxquelles la digitalisation peut apporter des solutions, donc tout en incluant les populations les plus vulnérables.
Je me tourne vers vous, Monsieur Sidikou, vous qui aviez une entreprise quand même assez audacieuse dans le domaine de la technologie et de la finance, déjà au Niger. La population est réticente quand on parle de technologie. L'adhésion des populations aux outils technologiques sont deux grands défis que doivent relever les projets de digitalisation. Mais sur le plan financier, tout a l'air d'aller bien. On a envie de savoir aujourd'hui comment se porte le secteur du fintech ou bien de la fintech au Niger.
Initialement, on avait lancé depuis il y a de cela un an une solution d'agrégation des moyens de paiement. C'est quoi la passerelle de paiement? C'est que quand vous venez chez eFuture, vous avez accès à l'ensemble de ces moyens de paiement. Vous, si vous avez besoin de collecter des paiements ou d'envoyer des paiements sur ces canaux. Et c'est une initiative qu'on a lancée depuis un an. Mais si vous regardez, on a eu beaucoup de demandes sur le marché, ce qui nous a poussé à développer encore d'autres solutions. On aura l'occasion de revenir.
Des demandes qui ne sont pas seulement du niveau des populations, même au niveau de l'État.
Au niveau de l'État, au niveau des entreprises, au niveau des ONG, il y a énormément. Et au niveau des institutions de microfinance. Vous savez, la microfinance, c'est eux qui étaient traditionnellement les acteurs qui avaient accès au monde rural. Mais ces microfinances ont subi aujourd'hui une dégringolade. Je parle sous le contrôle de Madame Ba, qui a raconté l'histoire des microfinances. Aujourd'hui, vous savez que depuis que Asusu s'est effondré, pratiquement toutes les microfinances au Niger ont subi des pertes énormes. Et c'était une panique générale. C'était comme en 1929, quoi, la crise économique. Voilà, c'est un peu ça que le Niger aussi avait vécu avec l'effondrement de Asusu. La panique s'est généralisée et les microfinances ont subi de plein fouet un effondrement de leur capacité à atteindre les populations. Parce que quand il y a la panique, tout le monde retire son argent.
Difficile de ramener.
De ramener. Yeah. Et du coup, il y avait encore ce challenge que ces microfinances devraient relever, qui est de s'adapter à la technologie pour atteindre ces populations. Parce que si on prend la technologie aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tous les acteurs sont d'accord que c'est à travers la technologie qu'on peut atteindre ces populations qui sont dans l'économie informelle, ces populations qui sont très reculées et tout. Et il suffit de voir un peu les chiffres des capital risqueurs. Parce que si vous regardez, si vous voulez voir réellement si quelque chose a de l'intérêt, il faut voir les chiffres des capital risqueurs. Et ces capital risqueurs, si vous regardez depuis les États-Unis, la majorité sont en train d'investir vers l'Afrique. Et quand ils investissent vers l'Afrique, c'est sur des solutions fintech. On vous parle pratiquement de plus de 2,7 milliards d'investissements par exemple
des, dans le secteur de
fintech. Dans le secteur de fintech, ouais. Juste pour les 4 premiers mois de 2022,
wow.
qui est carrément le double de l'année passée. Donc, les capital risqueurs de tous
les capital risqueurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est ceux qui ont de l'argent et qui ont envie d'investir.
D'investir, ouais. Voilà. Mais ils investissent où ? Ils investissent en Afrique. Donc, l'Afrique est pratiquement devenue le continent où, c'est vrai, il y a plus de la moitié qui ne sont pas bancarisés en Afrique. Donc, la majorité de ces investissements viennent au niveau de l'Afrique. Parce qu'il y a un challenge à relever et ce challenge-là, c'est comment bancariser plus de la moitié de l'économie non formelle de l'Afrique.
Donc on peut se dire aujourd'hui que le secteur de la fintech au Niger et même en Afrique, ben c'est le secteur du futur, le secteur le plus porteur, si on peut le dire. L'un des secteurs les plus porteurs.
Évidemment.
Alors madame, dans l'histoire de la microfinance au Niger, la technologie est en train de jouer un rôle très important. Mais peut-on dire aujourd'hui que la microfinance d'hier est préparée pour la microfinance de demain, pour être la microfinance de demain ?
Dire que la microfinance d'hier est en train de se préparer, c'est oui et non. Comme je l'ai dit dans le livre, il y a une évolution quand même. Et quelque part, cette évolution est liée à de nouveaux atouts, à de nouvelles situations. Et si les institutions veulent survivre, elles doivent s'adapter. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réglementation dans ce domaine aussi est en train de s'adapter au fur et à mesure. Comme l'a dit monsieur, il y a eu un choc lié aux difficultés de Asusu, mais les difficultés du secteur sont antérieures. Et déjà depuis 2010, au moment où j'étais à la tête de l'agence de régulation du secteur de la microfinance, il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnaient pas. Et pour préserver les dépôts, protéger les clients, on a été obligé de proposer au ministre et à la BCEAO le retrait des agréments. Et l'une des grosses institutions de l'époque, c'était Taïmako. Mmh. Et malheureusement, il y a eu le cas de Asusu et ensuite Tanadi, qui font que les communautés sont très frileuses.
Déjà, mais c'est normal, il s'agit de l'argent quand même.
On les comprend. Déjà à l'époque, comme elle l'a dit, l'accès à une institution de microfinance n'était pas chose facile. D'abord, très peu de zones étaient couvertes. Au jour d'aujourd'hui, il y a 22 communes sur les 265 comptes le Niger qui sont couvertes par un point de service. Il y a aussi les problèmes liés à la pièce d'identité. Beaucoup de ces personnes-là ne savent même pas, n'ont même pas d'acte de naissance. Donc, il y avait déjà cette situation difficile à gérer. Et maintenant, il y a eu la faillite d'autres où certains ne pourront jamais et récupérer leurs dépôts, ça fait que les institutions sont assez frileuses elles-mêmes et elles doivent faire preuve d'imagination pour conserver ce capital de confiance qui est vraiment effrité, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Comme on le dit, un chat échaudé craint l'eau chaude.
C'est clair.
Ce qui est tout à fait normal. Donc la digitalisation pourrait être une solution parce que ça facilite l'accès du plus grand nombre à ces services. Mais je me pose deux questions. La première, comment à travers tout ça préserver les dépôts ? Parce que ça aussi, c'est un problème. La microfinance classique n'a pas pu le faire. Et la deuxième chose,
oui.
Qu'en est-il des dispositifs de financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent ?
Ok. C'est facile de passer par le
voilà.
Blanchiment ou bien de tomber dans le piège oui. des
et
autres.
Et puis, à travers ces canaux, quand un client perd son portable, par exemple, est-ce que son compte peut être reconstitué s'il acquiert un nouveau portable ? Comment préserver leurs ressources ?
Voilà. Tellement ça, de questions qu'on n'a pas vu venir, qui quand même sont désormais à l'ordre du jour dans cette émission et on ne va pas hésiter à le faire. Alors, Madame Chérifatou, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on est tous d'accord, grâce au digital, les femmes, les personnes jadis écartées du système ont accès aux services financiers. Mais une chose est d'en avoir assez, mais une chose est d'avoir confiance et surtout d'être protégée. Comment ces personnes sont protégées ? Parce que ça aussi, ça fait partie des inquiétudes de madame si elle ne l'a pas dit.
Donc souvent, moi je vais même en revenir à la définition de l'inclusion financière, parce que souvent quand nous parlons d'inclusion financière, nous voyons juste l'aspect des services financiers. Mais l'inclusion financière, au fait, il faut la voir au sens large. C'est vraiment l'offre des services financiers et non financiers qui vont permettre de pouvoir inclure les populations les plus marginalisées. Donc bien sûr, les services financiers, la bancarisation, autres, l'accès aux services financiers en tant que tel, mais les services non financiers aussi, dans l'éducation financière, dans les formations sur les risques, etc. Donc ce côté-là n'est pas à négliger. Et elle avait parlé du premier obstacle qui est justement dû au, je sais qu'on a constaté de certains, les problèmes qu'il y a eu avec les microfinances qui sont en train vraiment de créer une certaine peur au niveau de la population, qui ne veulent plus, on va dire, soit retenter l'expérience ou même aller premièrement vers cette expérience de bancarisation. Et donc là, c'est à ce niveau que déjà l'éducation financière intervient beaucoup. Et nous, vraiment, à CAIR, nous mettons énormément l'accès sur l'éducation financière parce que c'est la base. Si tu ne connais pas l'utilité de quelque chose, tu ne peux pas aller vers cette chose-là. Mmh. Et deuxièmement, nous mettons aussi un point d'honneur par rapport à tout ce qui est protection des données. Peut-être à notre niveau, c'est beaucoup plus facile, je dirais, à mettre en place, comme nous avons vraiment une population qui est très ciblée. Et voilà, nous travaillons avec les femmes MMD et tout cela.
Ouais, et
nous,
déjà, elles sont voilà, organisées.
Et déjà, elles sont organisées et on a des suivis par rapport à ces groupements-là. Et c'est vraiment donc un truc intra-groupement. À part cela, nous avons aussi un système qui est basé sur la blockchain. Donc, comme vous le savez, la blockchain, vraiment, c'est un système qui permet le stockage et la transmission de données, qui est applicable à plusieurs secteurs, dont notamment le secteur à travers la crypto-monnaie. Donc, nous utilisons cette base-là pour notre application, ce qui va permettre de rendre notre système vraiment très sécurisé. Donc, voilà quelques points déjà. Et puis, nous faisons énormément de formations aussi à nos femmes par rapport à tout ce qui est cybersécurité, comment vraiment protéger son mot de passe et autres. Donc voilà quelques actions que je peux énumérer par rapport à ce que nous faisons sur la protection.
Super, on espère que les autres acteurs aussi font pareil que vous. Parce que vous, on sait, les autres, on ne sait pas. Alors, M. Boubacar Sidikou, madame vient de poser une question très importante. Comment est-ce qu'on évite, à travers le digital aujourd'hui, de financer le terrorisme, de passer au blanchiment? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que je sais qu'au niveau des mobile money, il y a un taux qu'il ne faut pas dépasser par jour, par mois. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut quand même ne pas financer le terrorisme ou bien passer par le blanchiment d'argent?
Alors, déjà, il faut dire que si on doit parler de limitation des risques au niveau des transactions financières, il y a déjà une réglementation au niveau de la BCAO. Et cette réglementation s'est imposée à tous les acteurs dans le domaine de l'espace BCAO, qui fait que il y a des possibilités, par exemple pour ceux qui n'ont pas d'identité, de faire jusqu'à 200 000 francs de transactions par jour et environ 20 transactions, maximum 20 transactions jour, et le volume maximal peut être de 200 000. Donc voilà un peu les limitations que la BCAO a mis en place. Pour ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'identité. Maintenant, pour ceux qui ont des identités, qui sont bien connues et formelles, eux, ils peuvent aller au-delà. Donc aller jusqu'à 100 transactions jour, jusqu'à, si vous voulez, 2 millions par jour. Ça, c'est ceux qui ont une identification. Et ça, la BCAO, évidemment, et puis les régulateurs ont pensé ça parce qu'ils ont compris qu'il y a des populations qui sont très vulnérables, telles qu'au Niger, où la question de la pièce d'identité pose énormément de problèmes. Et si tu dis que tu vas leur tenir rigueur par rapport à ce manque, à cette défaillance, on risquerait de ne jamais parvenir à les inclure financièrement et à leur donner cette chance-là de mener des activités économiques sur le plan et avoir vraiment des dépôts et des retraits par rapport au système financier. Donc ça a été déjà un premier cadre, c'est un premier cadrage, hein, et tout. Mais s'il faut encore aller au-delà, Donc, vous savez que, évidemment, une fois que les transactions vont atteindre un certain nombre de volumes, évidemment, il y a, sous le plan de la technologie, hein, il y a énormément de solutions qui sont en arrière-plan, qui essaient de surveiller les transactions.
Mm-hmm. Qui envoie
voilà,
combien
c'est un
à
peu,
qui
voilà, de l'intelligence artificielle et plein de systèmes de détection qui peuvent alerter quand il y a des transactions où ça paraît un peu douteux.
Voilà.
Donc voilà un peu, il y a ça. Bon, évidemment, il y a les textes juridiques qui vont de pair pour dire que, bon, voilà, tel type d'activité, tu peux le faire, tel type d'activité, tu ne peux pas le faire. Nous-mêmes, dans nos textes, sur notre système de paiement, on a dû préciser l'ensemble des activités qui sont prohibées et sur lesquelles on a besoin d'un... En tout cas, évidemment, on n'est pas... On met pratiquement, je vous donne un exemple, plus de 48 heures ou truc avant de faire un reversement. Quelqu'un peut collecter énormément d'argent, mais cet argent, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de rendre cet argent disponible instantanément à l'utilisateur. Vous allez voir quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Dakar, peut faire des transactions, mais ces transactions-là, pour des contrôles sur ces aspects que vous venez d'énumérer, on est obligé de laisser l'argent dans un système de contrôle avant qu'il ne puisse encaisser, pour qu'on s'assure que c'est vraiment des transactions assez fiables.
Justement.
Donc ça, c'est
et des fois, même certains utilisateurs se plaignent de la lenteur du système financier.
Voilà. Alors, la lenteur du système financier, on l'a tous connu. Déjà, avec les banques, on a connu cette lenteur-là, qui est très difficile. On est tous en train de la subir. Aujourd'hui, je fais une transaction. La transaction, je me trompe sur un nom. OK, j'envoie dans un pays. Mais je vous dis, pour recouvrer cet argent-là, ça peut durer des mois. Tu ne sais même pas à qui t'adresser. Ou bien tu viens dans un distributeur automatique d'argent. OK, tu fais un truc, il y a eu un débit à tort. Ça, c'est quelque chose qui est là. Et je ne sais pas, c'est la BCAO, c'est Jim Yoma, c'est les banques. Vraiment, ça, c'est des choses que notre espace, les gens devraient améliorer et qui créent beaucoup de désagréments. Et actuellement, où je suis en train de vous parler, j'ai plein de situations où l'argent n'est plus chez moi. L'argent est chez qui? Pour trouver chez qui l'argent est, parce que l'argent n'est pas parti chez le destinataire.
Ouais.
Et l'argent est chez qui? Tu tapes dans toutes les portes pour retrouver l'argent-là. Souvent, ça peut te prendre plusieurs mois. Ça, tout le monde est en train de souffrir de cette lenteur-là au niveau du système. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a poussé aujourd'hui la BCE même en train de créer un système parallèle par rapport à Jimmy et moi, qui était une expérience. Maintenant, ils sont en train de vraiment créer quelque chose qui va être un système financier en temps réel et qui viendra avec des meilleures technologies et des systèmes qui vont faire que instantanément et les banques et même les autres acteurs qui ne sont pas les banques puissent aujourd'hui avoir accès à ces ressources que la BCE est en train de mettre en place pour vraiment diversifier l'offre de services et créer énormément de concurrence dans l'espace pour que les populations vraiment
la qualité du service soit améliorée pour le bien des populations.
Voilà, pour le bien des populations.
Et le thème du forum de ce soir, c'est la FinTech au Niger, comment la technologie accélère l'inclusion financière. Nous sommes avec Boubacar Sidikou, responsable de l'entreprise eFuture. Chérifatou Agomon, elle travaille à Caire International sur un projet de digitalisation de la finance. Elle est également membre de l'association des FinTech du Niger, Niger FinTech. Et bien évidemment, Madame Aminata Ba, autrice, celle qui a rédigé l'histoire de la microfinance au Niger. Et quand on parle de l'histoire de la microfinance au Niger, l'État est quand même garant de la protection sous toutes ses formes de ses habitants, bien évidemment. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, à travers la stratégie nationale de finances inclusive, l'État nigérien, je peux dire, se met à jour pour rendre accessible la finance au Niger. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que cette démarche est en train d'aller dans le sens qu'il faut et surtout à la vitesse qu'il faut? Parce que nous sommes en 2022 et l'homme de 2022, c'est l'homme précis.
L'État est au cœur en ce sens que c'est l'État qui délivre les agréments d'exercice. Quand un groupe d'individus veut créer une institution de microfinance, ils doivent constituer un dossier. Je ne vais pas rentrer dans le détail des pièces. Et ce dossier est examiné par l'Agence de régulation du secteur de la microfinance, parallèlement à la Direction nationale d'APCO. Et de façon itérative, le dossier est envoyé à Dakar. Et une fois que l'APCO Dakar donne son avis conforme, en ce moment, la RSM rédige un arrêté qui est soumis à la signature du ministre. Ça veut dire quoi? À partir du moment où l'État a autorisé un groupe d'individus à exercer dans le secteur, l'État se porte garant de la protection des dépôts. C'est là que la RSM a été créée, pour contrôler ce que les institutions font. Malheureusement, pour diverses raisons, il y a des cas d'échec qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ça fait
des cas d'échec qui sont devenus des cas d'école, je peux dire. Qui vont servir à prévenir justement les échecs de demain, je me dis.
Oui, bon, j'espère bien. J'espère bien, parce que la réglementation aussi est en train d'évoluer.
Bien sûr.
Pour être beaucoup plus sévère. À l'époque, on pouvait créer une institution avec peu de capitaux. Mais aujourd'hui, il faut un capital minimum de 250 millions. Là, ça resserre un peu l'accès.
Ouais, ça fait le tri.
Voilà, ça fait le tri. Ouais. Mais il faut aller au-delà de ce tri. Une fois que l'institution est en activité, compte tenu des erreurs du passé, il faut que les autorités monétaires soient très, très, très regardantes. Il faut des inspections fréquentes et avoir un système d'alerte qui, dès qu'il y a un clignotant, il faut tout de suite intervenir.
Bien sûr, avant que l'accident ne se
fasse. Voilà, et ne pas hésiter vraiment à sanctionner. Voilà. Parce que ça a un peu manqué. Bon, maintenant, l'État est toujours dans son rôle, parce que c'est lui qui a approuvé la stratégie de finance inclusive. Et c'est lui qui a mobilisé les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, pour soutenir cette stratégie. La stratégie, elle a été adoptée. Elle est en train de se mettre en place. Les activités sont en train de se dérouler lentement, je suis d'accord avec vous. Bon, et puis c'est aussi le sentiment de beaucoup d'institutions financières. Mais la stratégie est en train de se dérouler. Et très bientôt, le fonds d'inclusion financière va être opérationnel. Grâce à ce fonds, les institutions qui remplissent certaines conditions pourront y accéder pour emprunter et faire du crédit à ceux qui en ont besoin. Donc l'État joue son rôle, parce que la stratégie de le secrétariat exécutif de cette stratégie, c'est un démembrement du ministère des Finances, tout comme l'Agence de régulation du secteur de la microfinance. Ça veut dire quoi? L'État est présent à la fois dans le contrôle, mais aussi dans la promotion. Et on espère que très bientôt, les choses iront mieux et nous allons arriver à vraiment améliorer la grosse différence qu'il y a entre nous et les autres pays membres de l'UEMOA.
D'accord. Il y a aussi un point essentiel que vous avez peut-être oublié de mentionner, c'est le côté de la formation.
Non, je n'ai pas oublié. La formation, elle est déroulée à la fois par l'agence de régulation, à travers tout ce qui est réglementation. Périodiquement, il organise des sessions de formation selon les régions où les institutions sont présentes. Mais il y a aussi toute une batterie de formation qui va être déroulée au niveau de la stratégie de finance inclusive. Parce que, par exemple, de plus en plus, on veut faire la promotion du crédit agricole. Il faut que les institutions soient outillées pour faire ce crédit. Elle a parlé d'éducation financière et il y a beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un panier de formation, on ne peut pas s'étendre là-dessus aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est déjà intéressant de savoir que ces formations viendront ou bien existe déjà. Alors, on continue ce débat avec vous, Madame Chérifatou Agomo, celle qui est toujours aux côtés des femmes rurales. Alors, aujourd'hui, la protection des données, vous l'avez évoqué. La confiance au niveau des utilisateurs et utilisatrices, vous l'avez également évoqué. Alors, comment aujourd'hui vous assurez la protection des différentes bénéficiaires et surtout la transmission, c'est-à-dire les nouveaux acteurs, les nouvelles actrices qui rentrent aujourd'hui dans le système financier, que ce soit digital ou pas, comment vous assurez leur éclosion?
D'accord. Donc déjà, quand on parle d'inclusion financière et nous, au niveau de notre projet IARZEKI, nous envisageons un certain nombre de services qui sont offerts aux femmes. Et quand vous voyez cette panoplie de services, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des services qui sont actuellement mis à disposition par CARE comme acteur singulier. Non, parce que nous parlons de mobile money, nous parlons de compte bancaire, nous parlons d'éducation digitale, nous parlons d'éducation financière. Donc, tant de domaines aujourd'hui qui sont aussi maîtrisés et mis en œuvre par d'autres acteurs. Donc, nous sommes vraiment dans une approche très inclusive qui met autour d'une même table plusieurs acteurs. Donc, nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons. Airtel Money, nous avons l'ANSSI au niveau gouvernemental. Nous avons certaines institutions de microfinance avec lesquelles nous travaillons. Donc, nous mettons tout cela en œuvre pour non seulement former les femmes, mais pour s'assurer que justement cette transition se fasse en douceur. Voilà pourquoi même au niveau du développement de l'application, nous écoutons les femmes et nous faisons du co-designing et de la co-création avec les femmes pour s'assurer qu'à la fin, on puisse venir avec un produit qui soit adapté à leur réalité.
Mais on a envie de savoir aujourd'hui, vous débarquez dans un village avec une application, comment les femmes ont réagi pour la première fois. Mais en attendant... Oui. Alors, ce soir, nous parlons de la fintech au Niger, comment la technologie accélère l'inclusion financière et qui parle d'argent parle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, M. Sidikou, je me tourne vers vous. Au niveau régional, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest suit de près les démarches des fintechs. Dans la préparation de ce forum, j'ai appris que le 22 avril, la Banque centrale, la BCAO, a annoncé la création d'un bureau de connaissances et de suivi des fintechs. Ouais, je me dis, mais pourquoi cet intérêt aussi grandissant, aussi important ?
Important, oui. Effectivement, parce que la BCAO s'est retrouvée dans un schéma où elle a réalisé que énormément de fintech dans son espace ont créé énormément d'emplois et brassent énormément de transactions par jour. Si vous regardez un peu dans la sous-région, ces fintech vraiment ont apporté de la valeur ajoutée. Et du coup, la BCAO ne peut pas se lever pour interdire cela. Évidemment, quand vous êtes au-delà du milliard par mois, vous comprenez que les fintechs sont venus, ils font plus que les IMF. Habituellement, la BCAO régule les IMF. Mais elle se retrouve avec des institutions de microfinance. Voilà. Et la BCAO se retrouve avec des acteurs qui sont là, qui font plus que même, souvent en termes de volume de transactions, qui sont là, qui font plus que ces institutions de microfinance. Bon, il lui faut quand même prendre une décision. La décision, on ne peut pas bloquer. Parce qu'il y a de la création de la valeur, il y a création de la valeur ajoutée.
Et c'est une solution création de l'emploi, une solution qui marche.
Qui marche et les populations adhèrent et ça résout les problèmes des uns et des autres. Donc, du coup, ils ont décidé de créer, je pense, ce bureau, un observatoire où les fintechs peuvent venir se déclarer.
Ça sera comme l'autorité de régulation des fintechs.
Donc nous, on a fait cette démarche. Okay. On a fait cette démarche. On a envoyé tous les éléments qu'ils ont demandé pour faire cette première déclaration d'existence en tant que fintech ici au Niger. Et en tant que fintech, au-delà même de l'agrégation de moyens de paiement aujourd'hui, nous accompagnons beaucoup de groupements, que ce soit des groupements agricoles ou des groupements de femmes qui font d'activités qui sont à l'échelle de la microfinance. C'est-à-dire qu'on les a trouvés eux-mêmes, chaque groupement en soi est une institution de microfinance avec des règles propres à elle de gérer l'argent, de gérer les crédits.
Des règles qui sont comprises, acceptées déjà à la
base. Tu veux trouver des groupements de 50, de 100 personnes et qui ont leurs règles. Donc, du coup, nous, quand on vient, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des gens, ils exercent comme ça dans un circuit informel. Et pour qu'ils puissent avoir plus de capacités, il faut évidemment que ces données, toute cette activité qu'ils sont en train de faire, soient reconnues et valorisées. Et c'est là où la technologie vient pour leur permettre d'avoir des solutions qui leur permettent vraiment de digitaliser et de gérer cette gestion archaïque-là. Et cette gestion archaïque, une fois que c'est digitalisé, ça permet à ce que les institutions de microfinance ou d'autres donateurs, d'autres barres de fonds, d'autres banques...
Et même des investisseurs
puissent... Ah ouais, eux-là, effectivement, ils arrivent à cotiser tel montant. Ils donnent du crédit de tel montant. Et quand ils investissent ce crédit pour acheter ne serait-ce qu'une machine de transformation d'huile, voici ce qu'ils arrivent à faire. Donc, il y a du potentiel. Mm-hmm. Et là, donc, je pense que si je leur donne un peu de voici le montant, si je leur donne, je pense qu'ils peuvent produire au-delà et sortir vraiment du seuil de la pauvreté et atteindre vraiment le niveau acceptable du truc. Donc, cette information qui manque, nous, aujourd'hui, c'est là où on intervient énormément pour permettre à ces populations-là d'avoir des solutions adaptées à leur contexte. Des solutions sans Internet qui leur permettent vraiment cette information digitale, parce qu'on a compris, au vu de nos études, qu'au moins, il y a deux ou trois personnes
qui ont
un téléphone, qui sont un peu lettrés dans ces gouvernements, et dans ces microfinances-là.
C'est des gouvernements aussi, au niveau local.
Voilà, c'est au niveau... voilà, donc, dans ces gestions de groupements d'agriculteurs ou de femmes. Ouais. Et donc, du coup, on peut leur confier un outil qui leur permette vraiment de gérer un peu les décisions. Parce que vraiment, il y a une gouvernance en interne. Il y a des secrétaires, il y a des comités qui valident à qui on doit donner. Il y a même des systèmes d'assurance. Vous imaginez. Donc, tout ce que vous pouvez retrouver souvent...
Dans le monde moderne,
ils ont ça, mais ils sont exclus. Ils le gèrent de manière très traditionnelle. Ouais. Et c'est là où la fintech, elle est importante pour venir en aide dans ce genre de groupements.
Super.
Et pareil aussi au niveau de si vous voulez... des IMF, la gestion du crédit agricole qui est quelque chose de très complexe au niveau des banques et des institutions de microfinance. Ouais. Ça aussi, les fintechs interviennent énormément parce que là, c'est énormément de paramètres quand vous dites crédit agricole. Crédit agricole, il y a des données énormes qui interviennent, la pluviométrie, les intempéries, les truqueries, les trains sous le marché, les prix de combien d'hectares ils possèdent quelles sont les projections de la météo, des données. Il y a énormément de données qui interviennent et c'est là où les fintechs peuvent intervenir pour aider, par exemple, ces institutions de microfinance et même les banques pour avoir aujourd'hui des plateformes qui leur permettent vraiment de donner plus de valeur à l'agriculteur, par exemple, pour leur permettre d'avoir plus de crédit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le crédit qui peut permettre à quelqu'un qui a des capacités de 1000 francs d'atteindre des capacités de 100 000.
On est presque à la fin de ce forum, mais je ne vais pas vous laisser partir parce que là, vous avez l'histoire de la microfinance au Niger entre vos mains, une histoire que vous avez partagée avec nous. Et selon vos explications, le futur sera vraiment spécialisé. Quelqu'un qui sera dans le domaine de l'agriculture aura un crédit spécial pour lui. Envie de savoir, ça sera d'ailleurs la dernière question, donc si vous avez quelque chose à ajouter, vous profitez de le faire. Ça sera de savoir aujourd'hui, est-ce que la technologie permet une spécialisation au niveau des microfinances?
Oui, donc la technologie peut aider en ce sens que, déjà avec la technologie, il y a certains paramètres qu'on peut mesurer. Par exemple, pour produire de l'oignon, il y a deux spéculations dans l'année. Il y a la période sèche, mais il y a la période hivernale. Par exemple, quand vous voulez produire du maïs pour le vendre, bon, à moins d'avoir un système d'irrigation, vous ne pouvez le faire que pendant l'hivernage. Donc, tous ces paramètres-là peuvent être pris en compte au niveau de la digitalisation et mettre à la disposition des agriculteurs les données fiables. Bien que, moi, je ne les sous-estime pas, ils connaissent, mais c'est toujours un plus par rapport aux éléments modernes. Et maintenant, par rapport à cela, au cycle de la spéculation, quand est-ce qu'il faut que l'institution de microfinance intervienne pour mettre le crédit, pour s'assurer qu'il va être bien utilisé, il va être vendu et il sera remboursé.
Et surtout pour que le crédit vienne au moment qu'il faut.
Au moment opportun.
Super. Ouais. Alors, nous sommes à la fin de cette émission et on a envie de savoir la première fois que vous débarquez dans un village, dans un groupement de femmes avec votre téléphone et vous expliquez aux dames que, écoutez, à partir de maintenant, depuis chez vous, vous pouvez aller faire votre opération grâce à votre téléphonie mobile. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous raconter par rapport à ça? Parce que ce soir, on parle quand même de la technologie, de la fintech et l'inclusion financière.
D'accord. Bon, je vais peut-être vous étonner, mais nous, quand on est parti, on n'est pas parti leur présenter une application, mais on est parti leur présenter les avantages que peuvent représenter le fait d'avoir une application. Parce qu'on s'est dit qu'on doit toujours commencer par l'éducation d'abord.
Et comment cette information a été reçue?
L'information, elle a été reçue vraiment, je veux dire, c'est entre l'espoir et l'étonnement.
Ouais.
Voilà, elles étaient à la fois vraiment contentes de savoir que de telles choses peuvent exister et ça les étonnait. Mais pourquoi elles ne sont pas au courant? Pourquoi elles ne sont pas embarquées dans le système depuis lors? Donc, vraiment, ça les a impressionnées et ça a créé même un engouement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dès qu'elles ont entendu, ah voilà, on cherche à les digitaliser au niveau de Kier et tout ça, des femmes ont commencé à chercher d'elles-mêmes des smartphones, à installer des applications comme WhatsApp, etc., à s'intéresser au mobile money de manière même classique, comme ça, sans pour autant même que ça soit intégré d'abord dans l'application. Donc, tout juste pour dire que souvent, la population a juste besoin qu'on fasse vraiment un pas vers elle, avec la technologie, pour qu'elle-même, elle puisse embrasser la technologie.
Super. Une très belle expérience, en tout cas. Alors, monsieur Sidikou, on est presque à la fin de ce forum. On a envie de savoir aujourd'hui, sur le plan de la main-d'œuvre, vous l'avez dit, c'est un secteur porteur, la fintech. Beaucoup d'emplois sont créés. Est-ce que les jeunes Nigériens sont préparés à ce secteur aussi porteur?
Alors, effectivement, si vous regardez au niveau du Niger, par exemple, ce secteur, en plus même des fintech, des sociétés qu'on peut catégoriser dans le secteur de fintech, si je prends au niveau de l'Association nigérienne des fintech, on a au moins une dizaine de structures qui ont été répertoriées comme des sociétés qui interviennent dans le secteur, soit directement en offrant des solutions directement aux populations, soit en offrant des solutions à d'autres institutions. Mm. Vous pouvez trouver des fintechs ils installent des solutions pour les microfinances, d'autres les sociétés de transfert d'argent que vous voyez. Derrière, souvent, vraiment, il y a une structure de jeunes qui les accompagne et qui amène à ce que ces sociétés aujourd'hui puissent offrir énormément de services. Donc, cette force, c'est une chaîne. Hein? Mm. C'est une chaîne et si vous comptez, que ce soit les STA, les sociétés de transfert d'argent, qui aujourd'hui sont en train d'aller à développer des solutions de mobile money qui est en train de bien marcher, ils ont beaucoup d'utilisateurs sur ces trucs. Vous allez trouver qu'il y a énormément d'emplois, que ce soit au niveau des STA, je peux dire Nita, Alisa et autres. Et même au niveau, nous-mêmes, de nos structures en tant que fintech, aujourd'hui, le besoin y est. Mais c'est vrai, dans le fond, on a besoin que le système académique aussi s'accompagne pour que les talents soient au rendez-vous.
Parce que plus on avance, plus les exigences deviennent énormes. On est dans la technologie.
On est dans la technologie et dans une technologie où tu dois traiter de la monnaie.
Ouais, ouais.
Et quand tu traites de la monnaie, tu n'as pas droit à l'erreur.
Ouais.
Parce que si tu fais une erreur, mon frère, c'est des milliards qui vont partir. Et je vous dis, hein, vous voyez un peu dans le monde de la crypto-monnaie, qui est celui qui fait peur aux États, aux institutions, on ne peut pas l'écarter. Mais ça fait, tu vois, souvent des institutions qui se créent, mais quand il y a une faille, aujourd'hui, toute la société, tout le monde disparaît.
Ouais, ouais.
Parce que c'est énormément d'argent qui sont partis et que c'est... voilà. Donc, ça donne un peu le
Donc,
le truc, voilà.
Aujourd'hui, les jeunes nigériennes arrivent à s'en sortir, mais il faut que le côté académique accompagne.
Il faut que le côté académique accompagne pour que ces jeunes soient aussi talentueux que possible. Parce que quand on dit fintech, c'est la technologie. Et
d'accord.
De la technologie, on a besoin des gens qui sont
très
utiles.
Et le débat est tellement passionnant qu'on est obligé de se séparer. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, chères auditrices et auditeurs, vous qui avez été fidèles du début jusqu'à la fin. Vous pouvez réécouter, bien évidemment, ce forum à travers le podcast sur le site internet, les réseaux sociaux du studio Kalangou. Je vous recommande la lecture de ce livre, L'histoire de la microfinance au Niger, toute la pédagogie, toute l'histoire de la microfinance hier. D'ici là, portez-vous bien, paix, lumière, amour sur vous, one love, bye bye et à demain.